BFM Business, midi, l'heure H. Présenté par Edwige Chevrillon.
Bonjour à tous, bienvenue dans l'heure H. On va parler du Brexit, mais avec un angle un peu particulier, l'effet Brexit. On va en parler avec Charles-Marie Jotras, il est le patron de Daniel Féo. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. On parlera de l'immobilier de luxe, puisque c'est ce que vous faites, pour savoir s'il y a un effet parisien en l'occurrence. Je recevrai Céline Orjubin, elle est la patronne de My Little Paris. Elle est membre du mouvement Sista. Sista qui veut promouvoir l'entrepreneuriat féminin. Et demain, grande réunion à Bercy. Vous savez-vous que les femmes reçoivent en moyenne deux fois et demi moins de fonds que les hommes entrepreneurs. C'est vous dire, c'est encore un parcours à faire. Et puis je recevrai évidemment ensuite l'économiste Eli Cohen, directeur de recherche au CNRS. On reviendra sur les gros dossiers industriels du moment, Renault, l'EPR, et puis les impôts productifs. Est-ce que c'est ça qui peut relancer la machine industrielle française? Pour l'instant, place à l'actu avec Thomas Asportas. Bonjour Thomas.
Bonjour Edwige, bonjour à tous. Et après la lueur d'espoir sur le Brexit, c'est à nouveau le pessimisme qui domine sur les chances d'un accord, puisque les discussions sont tout simplement à la Les discussions butent sur les futures relations commerciales entre les deux parties, notamment pour éviter un dumping fiscal de la part des Britanniques après le Brexit, mais aussi sur les désaccords entre Boris Johnson et les députés nord-irlandais du DUP. Le Premier ministre irlandais Leo Varadkar déclare qu'il reste de nombreux problèmes à régler. L'autre grosse actualité de la journée, c'est ce Conseil des ministres franco-allemands à Toulouse. Mathieu Jolivet, bonjour. Vous êtes sur place à Toulouse pour BFM Business, à la préfecture où va se tenir le Conseil franco-allemand des ministres. Auparavant, Mathieu, les chefs d'État était chez Airbus et on imagine que ce symbole n'a pas été choisi par hasard, évidemment, pour afficher l'entente industrielle des deux pays à 48 heures maintenant d'une menace de nouveaux droits de douane américains sur l'aéronautique notamment.
Oui, c'est une séquence très symbolique qui s'ouvre ici à Toulouse, puisque dans une demi-heure, Angela Merkel et Emmanuel Macron vont visiter ensemble une chaîne de montage de l'A350. Juste après, ils déjeuneront avec une dizaine de jeunes apprentis dans un avion campus. Il s'agit en fait d'un avion de formation à la mécanique pour ces jeunes apprentis. Ensemble donc sur ce site d'Airbus, très symbolique puisqu'il illustre peut-être le mieux cette coopération industrielle et technologique franco-allemande. Un choix qui ne laisse rien au hasard puisque la France et l'Allemagne veulent se montrer unis à seulement deux jours des hausses de taxes américaines qui frapperont potentiellement 7,5 milliards d'euros d'importation de biens européens. Des hausses qui font suite à un litige avec les autorités américaines qui reprochent justement, entre autres, à l'Europe de trop subventionner Airbus. Soudé aussi le couple franco-allemand avec les grands patrons européens avec qui ils dîneront ce soir juste derrière moi dans cette préfecture de la Haute-Garonne. Il y aura le PDG de Volvo, de Nokia, d'Air Liquide ou encore de Saint-Gobain. Au menu, comment faire bloc ensemble dans ce contexte de tensions commerciales exacerbées. D'ailleurs, cet après-midi, juste après le Conseil des ministres franco-allemand, Angela Merkel et Emmanuel Macron signeront un protocole pour renforcer la coopération industrielle et technologique entre nos deux pays.
Merci beaucoup Mathieu Jolivet en direct de Toulouse avec Olympe Paco pour BFM Business. Et à noter ce soir sur BFM Business, justement, édition spéciale à partir de 18h15 avec la conférence de presse commune d'Angela Merkel et Emmanuel Macron. Dans le reste de l'actualité, le marché automobile européen se reprend au mois de septembre, plus 14,4% sur un an après un effondrement des ventes de plus de 23% en septembre dernier, avec l'entrée en vigueur des nouvelles normes anti-pollution. Le marché est donc reparti de l'avant, même s'il reste en recul depuis le début de l'année, moins 1,6%. Côté constructeur, les ventes de PSA ont progressé de 4,3%, celle de Renault de 27,8% et de Volkswagen, là, ont carrément bondi de 46,8%. Et puis pour finir, toujours dans l'automobile, Toyota annonce des embauches en France, 500 postes à pourvoir dans son usine de Valenciennes pour produire à partir de la mi-2020 la nouvelle génération de la Yaris. 300 postes ont déjà été pourvus. Toyota va investir 300 millions d'euros dans son usine de Valenciennes qui emploie aujourd'hui 4200 personnes. BFM Business, il est midi 4, on file sur les marchés à la mi-journée. Le CAC 40 est à l'équilibre à 5696 points, juste repassant en dessous des 5700 points qu'on a touché hier. L'euro dollar est stable aussi, 1 euro s'échange pour 1,1034 $.
Merci Thomas, rendez-vous 12h30 dans un instant. Est-ce qu'il y a un effet Brexit sur l'immobilier? On voit ça tout de suite avec Charles-Marie Jotras, le patron de Daniel Féo.
BFM Business, l'heure H, la question du jour.
Charles-Marie Jotras, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes donc le patron, le président de Daniel Féo, l'immobilier de luxe. C'est vraiment la quintessence de l'immobilier. On peut dire ça comme ça, mais pas seulement. Je vois. Est-ce qu'on parle beaucoup du Brexit. On voit qu'on ne sait pas s'il y aura un accord ou pas. Mais est-ce qu'il y a un effet Brexit déjà ou pas? Notamment sur la capitale parisienne, mais peut-être pas que.
essentiellement sur la capitale parisienne. Alors, immobilier de luxe, oui, mais aussi immobilier familial parisien. Donc, on est un peu sur les deux segments. Et d'ailleurs, c'est la réponse pour le Brexit, elle existe aussi sur chacun de ces segments. Le Brexit, c'est... Il ne faut pas surévaluer le phénomène. C'est quelques centaines de personnes dont l'essentiel recherche des appartements précisément familiaux, classiques. Ce sont des gens qui étaient employés dans des départements financiers à Londres, qui savent que leur département est rapatrié à Paris. Quelques centaines de personnes donc, qui se positionnent sur le marché de l'achat. Qui cherchent des appartements familiaux, donc minimum 3 chambres. Le problème, c'est qu'ils arrivent sur un marché qui est d'ores et déjà extrêmement tendu, extrêmement déséquilibré entre l'offre et la demande. Ils cherchent des appartements dans des quartiers, disons, familiaux, avec des bonnes écoles. Beaucoup se reportent sur notamment le 16e Sud, un peu le 15e aussi. Sur des appartements, pour simplifier les choses, entre 1 et 2 millions. Et ça, c'est un marché qui est extrêmement tendu. Pour vous donner une idée, pour un appartement de 3 chambres dans le 16e Auteuil, on a plusieurs centaines de prospects potentiels.
Ah oui, d'accord. Il faut se dépêcher, quoi.
Il faut se dépêcher.
Est-ce qu'il y a eu une espèce de vaste communication, c'est-à-dire que les prix ont augmenté à Paris, le marché est très tendu. Vous venez de nous le dire rapidement, on va peut-être y revenir. Mais est-ce qu'à Londres, où on sait que les prix ont été explosés, est-ce que du coup, est-ce qu'ils baissent ?
C'est aussi un des problèmes, c'est que les gens qui ont acheté à Londres et qui veulent revenir à Paris se trouvent dans un marché qui a baissé de l'ordre de 35% en 18 mois à Londres, et notamment lié au Brexit. Bon, mais je vous rappelle que Londres était une des capitales les plus chères du monde. Londres attire beaucoup, beaucoup d'étrangers pour différentes raisons dont on peut parler. Aujourd'hui, donc, on a ces quelques centaines de personnes. Faut pas non plus exagérer le phénomène. Hein. Le problème, comme je vous disais, c'est qu'ils viennent sur un marché déjà très tendu. Et puis, on a eu, c'est beaucoup moins le cas aujourd'hui, malheureusement, on a eu un autre type d'investisseur qui, lui, cherche des appartements beaucoup plus luxueux, pour le coup,
oui.
Qui vont acheter à Saint-Germain-des-Prés.
Est-ce que la capitale offre ça, parisienne ? Parce qu'à Londres, on sait qu'il y a des très belles maisons, oui. Il y a des Sloane Square, il y a des quartiers, oui. On peut trouver des hôtels particuliers magnifiques. En France, et notamment à Paris, il y en a un peu, mais pas beaucoup.
Si, on a quand même, et je dirais presque même, le marché du grand luxe,
oui.
Au-delà de 4-5 millions, est moins tendu, assez paradoxalement, que le marché de l'appartement familial classique. Mais le problème, c'est que ces gens-là, donc ce sont des investisseurs, des chefs d'entreprise qui quittent Londres.
Mmh.
On en a vu revenir... En même temps qu'on a vu revenir des gens d'ailleurs de Belgique, de Suisse, d'Asie, lorsque Monsieur Macron est arrivé et qu'il a supprimé sources de départ, l'ISF et la flat tax. Et c'est vrai que ce mouvement de retour a été très clairement refroidi par ce qui s'est passé, les gilets jaunes, les grands débats, on a parlé de rétablir l'ISF, etc. C'est vrai que ce mouvement s'est un petit peu calmé, on va
d'accord,
dire.
Donc retour.
Par contre, on ne voit plus partir de gens comme on en a vu pendant plus de 30 ans depuis l'institution de l'IGF qui est devenue l'ISF pendant 30 ans. Enfin, on était aux premières loges pour voir énormément d'investisseurs partir.
Est-ce qu'on a vu du reste, il y a l'impôt sur l'immobilier, l'IFI qui a remplacé en partie l'ISF. On voit qu'il a rapporté plus que prévu, parce que donc ça veut dire qu'il y a beaucoup d'immobilier à Paris. Certains, du coup, même se désengagent de l'immobilier. Est-ce que vous l'observez ou pas ?
Absolument. Et c'est là de... C'est d'ailleurs, ça affecte aussi les gens qui rentrent de Londres, parce que tous ne cherchent pas à acheter. Il y en a un certain nombre qui cherchent à louer, et qui cherchent à louer des appartements, là encore, familiaux.
Oui.
Pas des studios ou des deux pièces. Et on est dans un mouvement inexorable de fonte du parc locatif familial. Et les raisons, vous avez évoqué vous-même une de ces raisons. La première, c'est effectivement la fiscalité.
Ouais.
C'est que ces appartements qui étaient détenus dans de grands immeubles, je parle bien des appartements familiaux, hein, pas des petits appartements, sont des appartements qui dont le rendement est de l'ordre de 3%. Ouais. Or, si vous la fiscalité des revenus fonciers aujourd'hui au maximum c'est 66,2%, hein, c'est 45 plus 4 plus 17,2. Donc les deux tiers. Donc si vous obtenez un rendement de 3%, ce qui est difficile à obtenir, on vous en prend les deux tiers en impôt foncier, en revenu foncier, pardon, impôt sur les revenus fonciers. Il vous en reste un, 3 moins les deux tiers, il reste un, et la tranche marginale de l'IFI, c'est 1,5. Donc vous êtes en négatif. Donc il y a un mouvement, effectivement, de vente de ces immeubles locatifs, parce que les propriétaires, l'impôt est clairement confiscatoire dans ce domaine.
Quels sont les... Le prix moyen immobilier à Paris, vous le voyez, il ne cesse de d'augmenter, surtout qu'il y a évidemment les taux d'intérêt très bas, même si on observe une petite remontée, mais peut-être pas pour les plus hauts revenus.
Remontée des taux d'intérêt ?
Oui. Légère.
Hein, oui, bon.
Non, microscopique. On est passé de genre à 1,16 à 1,18, quoi.
Voilà. Oui, non, non. Les prix. Paris est une capitale mondiale aussi. À Paris, il y a des Parisiens qui veulent acheter. Il y a des provinciaux qui veulent acheter. Il y a aussi des étrangers dans le marché, notamment du luxe. Et on ne construit plus à Paris. On ne construira plus depuis, notamment depuis 2000, la loi SRU. Vous ne verrez plus, vous ne voyez quasiment plus d'immeubles d'habitation construits, à l'exception peut-être du 18, 19, 20e. L'offre est totalement figée. Paris est considéré comme étant une des plus belles villes au monde. Nous, on n'a pas le droit de dire ça parisien, mais c'est vrai que nos clients étrangers nous le disent.
Très embouteillé. Il y a aussi beaucoup
d'autres capitales. Donc, tout ça pour vous dire que sur le moyen et long terme, je ne vois pas comment les prix parisiens pourraient baisser, puisque c'est un marché structurellement de pénurie.
Quels sont donc, il y a les achats à Paris, donc voilà. Où, quels sont les endroits qui font rêver aujourd'hui les riches, comme on dit?
Vous avez différentes sortes de riches. Vous avez, on a une clientèle américaine, par exemple, qui est très fidèle à Paris. Et elle va aller dans les quartiers historiques, le Marais, surtout ou la rive gauche, Saint-Germain-des-Prés.
Oui, mais en dehors de Paris, je ne sais pas. Est-ce qu'il y a, quelles sont les autres capitales qui profitent peut-être soit de l'effet Brexit, soit parce qu'on voit bien que les riches émirats, souvent, ils avaient envie d'investir à Londres, peut-être qu'ils le font moins maintenant aujourd'hui. Quelles sont les destinations aujourd'hui qui font rêver Charles-Marie Jotras?
Alors, les Émirats qui investissaient à Londres continuent à le faire. Pourquoi Londres était la première capitale résidentielle au monde? C'est parce qu'on y parle anglais et qu'il y a un système éducatif qui est parfaitement adapté à tous les pays, notamment les gens qui viennent des pays émergents. Et ils vont continuer
aussi
à acheter.
Pour les Russes,
pays qui vont rêver. Alors, New York est aujourd'hui dans une situation un peu plus difficile.
Pourquoi?
Il y a plusieurs raisons. Il y a un effet Chine. Les Chinois ont fait beaucoup monter les prix à Manhattan et ils se sont retirés depuis un an ou deux pour des raisons qu'on peut imaginer. Et ça affecte. C'est une des raisons qui a affecté le marché new-yorkais. Hong Kong était une des capitales. En ce moment, je n'en parle pas. C'est un petit peu compliqué. Vous avez Singapour. Mais Hong Kong et Singapour, ce sont deux marchés qui étaient impactés par les riches chinois mainland qui voulaient sortir de l'argent et acheter une résidence en dehors de la Chine.
Oui. C'est intéressant de voir la géopolitique vue de l'immobilier en l'occurrence, parce que on voit bien les grandes tendances, la géopolitique tout court, on voit bien l'impact que ça a effectivement sur l'économie, sur le commerce et aussi sur l'immobilier. Qu'est-ce qui se développe le plus pour vous chez Daniel Féau, c'est quoi?
Qu'est-ce qui se développe le plus? Écoutez, nous continuons à développer nos agences et nous installer dans tous les quartiers dans lesquels la sociologie de la clientèle.
Est-ce que vous allez un peu en province?
La sociologie de Féo.
Est-ce que vous allez un peu en province? On a vu hier, il y avait une carte très intéressante qui montrait où la demande était la plus forte. Certaines villes comme Nantes, mais aussi d'autres, sont exposées. Est-ce que Daniel Féau risque en province ou pas encore?
Nous allons en province pour les grandes propriétés, les châteaux, les grands domaines de chasse. Nous avons maintenant une agence à Aix-en-Provence qui couvre la Provence,
le
Luberon, etc. et le Sud-Est. Nous sommes pour l'heure encore très très parisien. Nous sommes aussi dans la proche couronne ouest, à Saint-Cloud, à Boulogne, à Neuilly évidemment. On va ouvrir une agence à Versailles très bientôt.
On voit que l'Île-de-France, ça se développe
beaucoup.
On reste
dans sur les marchés qui sont effectivement, qui couvrent les segments hauts du marché.
Prix moyen, selon vous, à Paris du mètre carré, vu par Daniel Féau, c'est quoi?
Alors ça veut vraiment...
Rien dire, merci, votre question est idiote. Ouais. Néanmoins...
Non, le prix moyen entre 1 et 2... des appartements qui sont vendus entre
1
et 2
millions...
Oui,
au mètre carré,
c'est... Mais le prix moyen au mètre carré des appartements vendus entre 1 et 2 millions, c'est... pour nous, c'est autour de 13 000 euros du mètre pour les appartements que nous vendons, mais ils sont plutôt plus de qualité, meilleurs que... Bon, et puis, au-delà de 4 millions, le prix moyen est supérieur à 18 millions, mais on vend aussi des appartements à 38, 39 millions d'euros. C'est assez rare.
C'est assez rare, j'imagine. Merci. Le prix le plus cher, le bien immobilier le plus cher que vous ayez jamais vendu à Paris.
Vous avez ça en tête ? C'est en très proche région parisienne. C'était un bien, mais qui n'a... C'est 280 millions d'euros.
Oui, mais ça, c'est... On sait ce que c'était.
C'est bon, voilà, vous savez ce que c'est.
Non, mais à Paris.
À Paris même, nous avons vendu... en vendant des hôtels particuliers, nous avons vendu des hôtels pour 80 millions d'euros.
80 millions d'euros, voilà, c'est dit. Merci beaucoup Charles-Marie et Jotras d'avoir été avec nous, donc le patron de Daniel Féau. Dans un instant, elle promeut les femmes, c'est Cécile Céline, j'ai Orjubin, la patronne cofondatrice de My Little Paris, c'est les membres du mouvement Sista, elle va tout nous expliquer, vous voyez, c'est difficile d'être une femme et d'être entrepreneuse. À tout de suite.
BFM Business, midi, l'heure H. L'invité avec Edwige Chevrillon.
Savez-vous que les femmes reçoivent en moyenne 2,5 fois moins de fonds que les hommes entrepreneurs? On en parle avec Céline Orjubin qui, elle, a créé sa boîte. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous avez créé My Little Paris, quand même maintenant c'est 130 collaborateurs. Chiffre d'affaires?
Fait plusieurs dizaines de millions d'euros de chiffre d'affaires.
Oui, je sais, ça, j'ai vu, ça s'est écrit, mais en vrai, c'est quoi?
On communique pas sur le chiffre. On est rentable depuis le premier jour.
Comme toutes les boîtes de la high-tech, ça, c'est un truc de dingue. Et vous êtes membre du mouvement Sista, justement, demain, à Bercy, avec Marlène Schiappa, vous allez signer une charte pour promouvoir l'entrepreneuriat au féminin. Parce qu'on voit, on a des tas de chiffres qui montrent que c'est quand même un peu un désastre, hein, pour les femmes au féminin. Vous, rappelez-nous, My Little Paris, vous l'avez créé quand?
Alors, My Little Paris a été créé en 2008. Aujourd'hui, donc, c'est un groupe média qui s'est assez rapidement diversifié puisqu'on a lancé My Little Box donc sur le e-commerce dès 2011. Mais en fait, depuis le début, quelque part, My Little, c'est avant tout une histoire de femmes puisqu'on est 5 femmes entrepreneuses à s'être associées pour My Little. Depuis le début, donc, on a commencé vraiment avec une newsletter qu'on a envoyée à l'époque à une dizaine d'amis. Au bout de un mois, on avait 1000 abonnés. Au bout de 6 mois, on était à 10 000 abonnés. Et aujourd'hui, on s'adresse à plus de 5 millions de femmes.
Et vous leur dites quoi?
Alors, des choses très différentes, mais clairement, notamment sur ta page, qui est vraiment notre média plutôt pour les jeunes femmes qu'entre 15 et 25 ans, c'est 40% de notre audience, hein, ces jeunes femmes. Moi, je considère qu'on est une sorte de porte-voix pour les femmes aujourd'hui, pour simplement nourrir leur confiance en elles. Et cet engagement, je le porte aussi évidemment au sein de l'équipe, parce que sur les 130 personnes qui travaillent avec nous, on a plus de 110 femmes, donc on a aussi un vrai rôle à jouer auprès de ces jeunes femmes. Et pour moi, c'est un bon exemple de cet engagement, je pense, c'est Mona, un espace de coworking qu'on a créé, donc gratuit et ouvert à toutes, pour vraiment promouvoir aussi les rôles modèles de l'entrepreneuriat féminin.
Mais My Little Paris, est-ce que c'est un média, parce que vous parlez d'une newsletter, ou en fait, où c'est, je sais pas, c'est du management, c'est un truc de DRH, c'est quoi?
Non, en fait, My Little Paris, c'est vraiment un média, donc on est né, on est parti de la newsletter, et je pense que ce qu'on aime faire et ce qu'on sait faire...
Il y a quoi dans cette newsletter?
Alors, typiquement, hier, il y avait un concert sandwich, donc à 15 euros, vous pouvez aller écouter un concert de musique classique en mangeant un sandwich à Paris. Donc l'idée, elle est assez simple, c'est simplement de surprendre les Parisiens dans leur quotidien, puis les Marseillais et les Lyonnais, parce qu'on est dans ces trois villes principalement, et de leur envoyer à travers une newsletter une idée un peu
tout
différente.
Tout ce qui se passe, oui.
Pas tout ce qui se passe, ce qu'il y a de mieux. Donc on envoie trois newsletters par semaine avec vraiment l'idée de les surprendre et de leur raconter une histoire. Et petit à petit, en fait, on s'est déployé comme ça. Assez rapidement, on s'est diversifié parce qu'en 2011, on s'est dit, bah, finalement, on surprend notre audience dans leur boîte mail. On pourrait peut-être les surprendre dans leur boîte aux lettres. Mmh. Donc, on a créé My Little Box. On en a produit 2000. Les 2000 box sont partis en 45 minutes. Donc, le mois d'après, on en a fait 10 000. Et aujourd'hui, c'est plus de 200 000 box qu'on envoie. C'est 70% de notre chiffre d'affaires.
Est-ce qu'il faut voir, donc, c'est créé en 2009 et vous l'avez créé sans fonds? Parce que vous n'avez pas trouvé de fonds ou c'est parce que vous êtes parti? Vous n'avez pas trouvé
alors,
de fonds.
Ce qu'il faut savoir aussi, My Little, je pense que c'est une aventure complètement atypique. Donc Fanny Pécheda, qui était vraiment la créatrice au tout début, je pense qu'elle avait ce talent de dénichage. Et en fait, au tout début, My Little, c'était juste une sorte d'association loi 1901. On n'était même pas une entreprise. On se retrouvait le lundi soir pour travailler autour d'une table de cuisine. Et c'est comme ça qu'en fait, ça a grandi. Donc on a pu se développer très rapidement sur fonds propres. On n'a jamais eu à lever fonds. Et quelque part, les premières personnes qui nous ont fait confiance, qui nous ont signé des chèques, c'était nos clientes.
Oui, d'accord. Donc on voit, parce que justement, c'est intéressant de raconter l'histoire de My Little Paris, parce que donc là, vous êtes membre de cette association, je vais y arriver, Sista. Ouais. Sista, donc ça veut défendre l'entrepreneuriat au féminin. J'ai envie de dire, j'espère que vous avez des bonnes rames, parce que lorsqu'on voit les chiffres, c'est assez consternant.
Je sais.
Vous l'expliquez comment? Parce que, d'accord, c'est la faute aux hommes, c'est la faute aux banquiers, mais il y a peut-être aussi une forme de responsabilité. Est-ce que les femmes, elles osent ou pas?
Alors moi, là-dessus, je suis assez catégorique. Je pense qu'on vit dans une société patriarcale, et je pense que les femmes, elles osent beaucoup. Les femmes, elles sont courageuses, elles essayent tout. À un moment donné, je pense qu'il faut prendre des mesures assez concrètes. Et en fait, Sista, donc c'est une initiative qui a été lancée par Tatiana Jama, la fondatrice de Sélectionniste, et Céline Lazorte, la fondatrice de Litchi.
Oui.
Et en fait, elles ont assez rapidement fédéré autour d'elles d'autres patronnes comme Mercedes Serra ou Stéphane Palaise. Elles sont parties d'un constat assez simple. Leur idée, c'est simplement de compter les femmes pour que les femmes comptent. En fait, on se rend compte qu'aujourd'hui, on n'avait aucune donnée sur les fonds investis dans des startups portées par des femmes. Donc, une fois qu'on compte ça, on se rend compte qu'aujourd'hui, c'est 2,2% des fonds qui sont investis dans des startups portées par des femmes en France.
2,2%. Oui, d'accord. Oui.
Donc, c'est le genre de chiffres, on voit ça et on se dit, en fait, il y a un problème, c'est pas possible. Ouais. Et c'est la réalité. Et donc, assez rapidement, on se dit, comment est-ce qu'on peut concrètement agir? Et c'est pour ça qu'on sera donc avec Sista à Bercy demain, en présence de Marlène Schiappa et Cédric O, pour la signature de cette charte, à travers laquelle donc, des fonds d'investissement, soutenus évidemment et portés par la BPI, vont s'engager à investir au moins 25% de leurs fonds dans des startups portées par des femmes d'ici 2025.
Mais ça sera, c'est une charte qui va être signée. Donc, au-delà de la BPI, est-ce qu'il y a d'autres fonds qui vont signer?
Bien sûr, ce sera dévoilé demain.
Mais bon, je sais pas, Fonds Isaïe par exemple, ils signent ou pas?
Je peux pas donner de nom, tout sera donné demain. Parce que déjà, moi, c'est vraiment Tatiana et Céline qui mènent le projet et je pense que c'est à elles de révéler les fonds qui sont signataires.
Non, mais parce que on connaît bien Jean-David Chamboredon, qui est un habitué de BFM Business et de l'RH. Lorsque je lui posais la question, en disant, mais attends, c'est complètement dingue, on est en train de construire un monde qui est encore plus misogyne que le monde actuel, alors que c'est la nouvelle génération qui est censée avoir tous les talents possibles. Il me dit, mais attendez, moi, je reçois très très peu de projets portés par des femmes.
Alors, ce qui est certain, c'est quand on se parle de ce sujet-là, moi, je considère que oui, c'est un enjeu féministe qui est juste et légitime à mes yeux. C'est aussi un enjeu de performance économique, parce qu'on sait que...
L'égalité, hein, il y a plus de femmes que d'hommes.
Complètement. Donc, un enjeu de performance économique, parce qu'on sait que c'est 2000 milliards de PIB qui seraient créés en Europe si les femmes avaient accès à égalité, en fait, aux fonds d'investissement. Pour moi, en fait, là où c'est un enjeu fondamental, c'est quelque part, et vous le disiez de façon très, très juste, en fait, tout à l'heure, c'est que, en fait, on se parle du monde de demain. Mmh. On se parle de comment ces entreprises, ces startups qui sont aujourd'hui financées, vont construire le monde dans lequel nos enfants vont grandir. Et aujourd'hui, on peut se dire que c'est un monde, en effet, qui est construit par et pour les hommes. Et ça, moi, ça me pose problème.
Oui, et le monde de demain, encore plus. Hein. Est-ce qu'il y a un backlash ou pas? Est-ce que vous rencontrez des difficultés, le fait que d'être que des femmes? Vous mettez le balancier, pour le coup, je ne sais pas si c'est à droite ou à gauche, mais enfin, en tous les cas, très loin.
Ouais, moi je pense que pour moi ça a toujours été une histoire complètement atypique, le fait de se déployer sur fonds propres. En fait, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui nous le power of zero, mais concrètement on avait zéro expérience et zéro argent. On s'est développé sur le média de cette façon-là. On s'est aussi développé sur le e-commerce dès 2011 de cette façon-là. Et ça c'est une histoire complètement à part aujourd'hui. Moi je pense que la particularité de My Little c'est En fait, on connecte des gens et on connecte des univers qui ne devraient pas forcément se rencontrer. Et je pense que c'est ça qui fait vraiment notre particularité aujourd'hui. Et dans notre façon d'entreprendre, en tant que tel, ça a été aussi très singulier.
Donc, des dizaines de millions de chiffre d'affaires. Quoi, vous êtes entre 50 et 100, juste pour avoir...
C'est à peu près ça.
À peu près ça, d'accord. Donc, on n'en saura pas plus. Ça aussi, moi, je trouve, ça, pour le coup, c'est une question de transparence, à l'heure de la transparence, où on sait tout, de tout, sur tout le monde. Par contre, on ne sait jamais le chiffre d'affaires des entreprises comme la vôtre. Vous n'êtes pas la première, hein,
en fait,
vous inquiétez pas, les hommes sont pareils.
On a communiqué sans problème jusqu'à ce qu'on rejoigne un plus grand groupe. Et donc là, on est voilà, soumis à d'autres normes que celles qui étaient la nôtre au début. On communiquait plutôt avec fierté à la fois de notre chiffre d'affaires et notre rentabilité.
Est-ce que lorsque vous discutez quand même avec des hommes, est-ce que c'est, on vous regarde un peu bizarrement ou pas? Je parle dans le business, hein, bien sûr.
Je pense que de toute façon, My Little, depuis le début, c'est une forme un peu d'ovni. Parce que déjà, on a mis beaucoup, beaucoup d'énergie sur la culture d'entreprise et sur les valeurs. On met beaucoup d'énergie dans nos bureaux. Donc en fait, nos bureaux même, en fait, on est 130 collaborateurs. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a pas mal d'entrepreneurs, notamment de la Silicon Valley, qui en ont fait un peu un passage obligé quand ils arrivent à Paris, parce que je pense que c'est une façon d'entreprendre complètement singulière. Ce matin même, je sors du théâtre de l'atelier où on était en inspiration avec l'ensemble.
Qui est passé chez vous, en l'occurrence.
Ouais, par exemple.
Est-ce que c'est pas pour donner bonne confiance?
Moi, je pense pas. Je pense que c'est quelqu'un de particulièrement occupé et de passer une heure avec des femmes dirigeantes et de venir partager un poulet rôti avec nous. Moi, je pense que c'est une bonne façon de mettre en avant l'écosystème entrepreneurial et féminin français.
Ouais. Et demain, donc, ce charte signée donc à Bercy, il faudrait presque un caractère obligatoire, non, quand même.
En tout cas, des quotas, non? Ce qui est certain, c'est que, alors, moi, je suis à la fois désespérée de me dire que oui, il faut des quotas pour ce qui concerne quand même la moitié de l'humanité. Mais en effet, on en est là. Je pense qu'au-delà des quotas, pour moi, c'est aussi un enjeu d'éducation. Parce que clairement, ce sujet, et moi, je suis très heureuse d'agir à travers Sista sur l'accès aux fonds d'investissement. Mais plus je travaille sur ce sujet-là, plus je me rends compte que c'est vraiment aussi un enjeu d'éducation.
Oui, et puis surtout, il faut dire oser, il faut y aller, en l'occurrence, hein, comme vous. Merci beaucoup, Céline Orjubin, d'avoir été avec nous. Donc, présidente cofondatrice de My Little Paris. Et puis donc, cette charte signé demain, Sista, ce mouvement, vous pouvez le rejoindre si jamais ça vous dit. Merci beaucoup. Dans un instant, c'est un homme, bien sûr, un économiste. On va parler de l'industrie. C'est un des meilleurs spécialistes de l'industrie française. C'est Eli Cohen qui sera notre invité dans le RH.
BFM Business, midi, l'heure H. Présenté par Edwige Chevrillon.
Il est un peu plus de 12h30, je suis en retard. Eli Cohen, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être là. Plein de questions évidemment à vous poser sur des dossiers que vous connaissez par cœur. On verra ça, mais pour l'instant, rappelle les titres, Thomas Asporta.
Et après la lueur d'espoir sur le Brexit, c'est à nouveau le pessimisme qui domine sur les chances d'un accord, puisque les discussions sont tout simplement à l'arrêt. Elles butent sur les futures relations commerciales entre les deux parties, notamment pour éviter un dumping fiscal de la part des Britanniques après le Brexit, mais aussi sur les désaccords entre Boris Johnson et les députés nord-irlandais du DUP, le Premier ministre irlandais Leo Varadkar et le négociateur européen Michel Barnier déclare qu'il reste de nombreux problèmes à régler. L'autre grosse actualité de la journée, c'est ce conseil des ministres franco-allemand à Toulouse. Angela Merkel et Emmanuel Macron sont chez Airbus pour afficher leur entente industrielle, alors que les États-Unis doivent appliquer normalement des droits de douane sur l'aéronautique dès vendredi. Et puis ce soir, édition spéciale à suivre sur BFM Business à partir de 18h15 avec la conférence de presse commune d'Angela Merkel et Emmanuel Macron. Dans le reste de l'actualité, le marché automobile européen se reprend au mois de septembre, plus 14% sur un an, après un effondrement des ventes de plus de 23% en septembre 2018. Avec, vous en souvenez, l'entrée en vigueur des nouvelles normes anti-pollution. Le marché reste toutefois en recul depuis le début de l'année, moins 1,6%. Et puis pour finir, toujours dans l'automobile, Toyota annonce une bonne nouvelle, des embauches en France, 500 postes à pourvoir dans son usine de Valenciennes pour produire la nouvelle génération de la Yaris. 300 postes ont déjà été signés. L'usine Toyota de Valenciennes emploie aujourd'hui 4200 personnes. BFM Business, midi 32. Je vous redonne le CAC 40 à la mi-journée qui est toujours stable à 5699 points, vraiment juste en dessous des 5700. L'euro-dollar est stable aussi, 1,6€. S'échange pour $1.41.
Merci Thomas. Quel avenir pour EDF? Quel dirigeant pour Renault? On voit ça dans un instant avec notre invité, l'économiste Eli Cohen. A tout de suite.
BFM Business, midi, l'heure H. L'invité avec Edwige Chevrillon.
Notre invité, c'est Eli Cohen. Merci d'être avec nous, Eli Cohen, économiste, mais surtout, j'ai envie de dire, un des meilleurs spécialistes de l'industrie, et notamment de l'industrie française. Et vous êtes directeur de recherche au CNRS. Et vous faites partie, justement, de cette petite commission qui a travaillé sur le pacte productif aux côtés de Bruno Le Maire, bien sûr, et de Agnès Pannier-Runacher. Donc, on va revenir là-dessus. Je voudrais, il y a deux, le pacte productif, bon, est-ce que c'est intéressant? Qu'est-ce qu'il y a dedans? Impôts de production? Est-ce qu'il faut vraiment, il y a urgence ou pas? Mais il y a le dossier EDF que vous connaissez très très bien avec cette lettre qui a été dévoilée par nos confrères du Monde et des Échos sur la construction éventuelle de PR. Et puis il y a Renault. Je voudrais peut-être commencer par Renault parce que là aussi c'est un sujet que vous connaissez par cœur, Eli Cohen. Quel est le profil pour succéder à Thierry Bolloré? Quel est le profil, à votre avis, le mieux adapté à la situation d'aujourd'hui de Renault, profil de directeur général, sachant que le président, évidemment, c'est Jean-Dominique Senard?
Je crois surtout qu'il faut un industriel qui a les nerfs solides et qui est prêt à jeter sur le paysage un regard nouveau. On sort d'une période de grande tension entre les intérêts français et japonais. Il y a eu cette tentative d'alliance avec Fiat. Il y a eu beaucoup d'agitation dans les sphères dirigeantes, des conflits ouverts entre des cadres dirigeants japonais et des cadres dirigeants français, une alliance qui était en panne, une mauvaise performance économique et industrielle et de Nissan et de Renault. Donc il faut vraiment se ressaisir. Alors je dirais la bonne nouvelle, c'est que Senard et le gouvernement français ont apparemment fait leur choix. Ils veulent d'abord et avant tout consolider l'alliance franco-japonaise. Ils sont prêts apparemment à faire les concessions nécessaires. Et pour cela, ils veulent écarter tous ceux qui, d'une manière ou d'une autre, ont participé à l'activation des conflits. Et ils veulent apaiser l'atmosphère pour qu'une vraie logique industrielle et managériale reprenne le dessus.
Est-ce qu'il y a un profil à la Ben Smith? Parce que hier, Agnès Pannier-Runacher, justement, elle disait qu'il n'est pas forcément un patron français.
Je crois qu'en matière de recrutement, vous avez vu ce qui s'est fait et dans la pharmacie, oui, et dans l'aéronautique. Je crois que l'idée de choisir franco-français n'est plus du tout une idée de mise, même si nous avons d'excellents dirigeants et qu'on en découvre périodiquement dirigeants des entreprises étrangères. Non, je crois vraiment que le critère essentiel, ça sera cette capacité à produire une analyse nouvelle du paysage de l'automobile dans un contexte où les nouvelles sont tous les jours plus terrifiantes les unes que les autres. On voit que la filière du diesel est en train de s'effondrer littéralement.
Avec
on
a parlé tout à l'heure sur l'emploi et la sous-traitance.
Voilà, on a parlé tout à l'heure de l'activité automobile, mais moi je constate que l'automobile a baissé de 5% en Allemagne en un an. C'est-à-dire on est en train d'assister à un affaissement à bas bruit de tout le cœur industriel allemand et par contagion du cœur de l'Europe, parce que l'automobile, c'est vraiment une activité particulièrement structurante. Vous parliez tout à l'heure de cette réunion du pacte productif. On a rappelé quelques chiffres dans ce pacte productif, c'est-à-dire le fait qu'en 2004 encore, la France était excédentaire sur la filière automobile, elle était excédentaire de 13 milliards, et 10 ans après, elle est déficitaire de 12 milliards, c'est-à-dire un écart de 25 milliards, qui traduit la formidable perte de compétitivité et l'arbitrage qui a été fait de plus en plus par les industriels français en faveur de la production hors de France. Donc si vous voulez, vous avez à la fois des bouleversements technologiques et économiques majeurs dans la filière automobile, vous avez ces problèmes de gestion des grandes alliances, des problèmes de management liés à la gestion de ces grandes alliances, et vous avez les délocalisations qui continuent et qui dépeuplent le paysage industriel français année après année.
Oui, donc on voit qu'il y a... Et en plus, il y a les grands défis dont vous avez mentionné, mais effectivement, que ça soit la voiture électrique, la chute du diesel, voiture électrique, voiture autonome, des défis absolument énormes.
Absolument.
Donc, mutation industrielle en plus.
Absolument, mutation technologique, mutation industrielle, redistribution des cartes entre grands acteurs, enjeux managériaux, enjeux de rentabilité et de compétitivité, avec quand même... Jusqu'à présent, on était habitué, il faut le dire franchement, que le gros des résultats du groupe Renault soit fait par les dividendes que versait Nissan. Nissan est lui-même en difficulté, parce qu'il est en train de se passer quelque chose, là aussi parmi les événements structurants, c'est que les pays émergents cessent d'émerger et commencent à devenir matures. Ce qui se passe à l'origine de tout ça, c'est la baisse d'achats de voitures En Chine, on était habitué à des taux d'équipement sans cesse grandissant. Ouais. En Chine, bah, vous avez un très net ralentissement. La classe moyenne chinoise commence à être pourvue. Et donc, la baisse des importations, la baisse relative des importations chinoises a des effets en cascade sur l'industrie allemande, sur l'industrie européenne. Et c'est à tout ça qu'on assiste.
Et sur l'industrie japonaise, voilà. Parce que c'est le point de départ. Hein, quand
exactement.
Même. C'est les difficultés de Nissan qui ont provoqué l'affaire Bonn, etc.
Exactement. Ouais. Donc, quand vous avez... et un choc dans la mondialisation, et un choc technologique, et un choc managérial, bah on comprend qu'en France, on songe à resserrer les boulons. Quoi. Ouais,
et puis, pas facile de trouver un directeur général.
Pas facile de trouver dans ce moment-là un nouveau directeur
En l'occurrence, juste une question ça, sur Renault, parce que, est-ce que pour vous, on peut avoir quand même ce sentiment qu'on est en train de un peu, pardon, c'est un peu trivial, mais de baisser notre pantalon devant, devant les Japonais. Est-ce que cette alliance, il faut la maintenir coûte que coûte, même si Renault perd sa majorité chez Nissan, même si, vous voyez ?
Alors, vous avez raison de poser le problème, parce que derrière...
C'est quand même incroyable, on a l'impression qu'on sait tout.
Alors derrière la
Carlos Ghosn est quand même...
Derrière l'écart, la mise à l'écart de Bolloré, il y a bien entendu la tension sur qu'est-ce qu'il faut faire de cette alliance franco-allemande. C'est un secret pour personne, Jean-Dominique Senard...
Franco-japonaise.
...est prêt... Pardon ?
On dit franco-allemande.
Non, franco-japonaise. Jean-Dominique Senard était partisan d'une négociation pleine de bonne volonté, tenant compte des nouvelles demandes japonaises. Et au sein de Renault, il y avait beaucoup de gens qui estimaient que nous devions simplement exercer nos droits de quasi-majoritaire et qu'il fallait écarter ceux qui avaient trahi et qui n'avaient pas de concessions particulières à faire. Alors je crois que... Jean-Dominique Senard, aidé par le gouvernement français, a estimé qu'il fallait sauver l'alliance franco-japonaise, notamment parce que le gouvernement japonais s'est un peu aligné sur Nissan et que le gouvernement français ne voulait pas gérer un heurt frontal, pas simplement avec l'entreprise, mais également avec le gouvernement japonais. Le gouvernement
a perçu une espèce...
Quand vous avez une poussée de nationalisme dans un groupe binational, qu'est-ce que vous faites ? Ou vous allez à l'éclatement, et je pense que l'actionnaire...
Mais vous êtes majoritaire, donc...
Je ne défends pas cette position.
Non, mais je
dis simplement qu'après avoir considéré les différents éléments, le gouvernement français a estimé que Renault ne pouvait pas se payer le luxe d'une crise majeure avec Nissan.
Donc, ça veut dire, voilà, je voulais vous emmener là où on arrive, Eli Cohen, Renault ne peut plus se passer de Nissan.
Voilà, je pense. D'accord. Je pense qu'on a estimé, en tout cas, qu'on ne pouvait pas prendre ce risque-là. Alors, on a flirté un peu avec l'idée que...
Ouvrir un autre front.
Pouvait aider à consolider sa main, ça n'a pas été le cas. Donc, on ne sait pas jusqu'où iront les concessions. Mais en tout cas, je pense que ce qu'a fait Senard, c'est de dire, OK, je commence par changer les têtes. Et je vois si on peut trouver un nouveau modus vivendi. Et c'est ce qu'il est en train de faire.
Est-ce que vous pensez que Renault est quand même très fragilisé par tout ça ? Parce que hier, je recevais Patrick Pellatat, l'ancien directeur général de Renault, de très très intéressant. On dit qu'il est éventuellement, il pourrait revenir pendant une période courte. Enfin, je trouve que ça peut être difficile. Mais il disait, on n'a jamais vu ça, c'est-à-dire lancement d'une voiture, en l'occurrence la Clio, qui va être lancée en même temps que la Peugeot, la 208. Ça a été repoussé. Il y a du retard. Donc on peut s'interroger sur Renault.
Il y a des dysfonctionnements. Écoutez, la crise de l'Alliance ne peut pas ne pas avoir d'effet. Parce qu'on avait décidé de gérer dans l'Alliance beaucoup de choses. On avait commencé, comme vous le savez, par gérer les questions d'approvisionnement, de plateformes communes, etc. Et on a fini par pousser l'intégration de plus en plus, et notamment en matière technologique, avec un leadership technologique qui avait été donné, ça et là, aux Japonais. Donc, cette crise, cette paralysie, ce mauvais fonctionnement de l'Alliance, ça ne peut pas ne pas produire de résultats. On le voit dans les chiffres, et on le voit également dans la politique de gamme.
Et c'est là où on voit l'importance qu'avait quand même Carlos Ghosn. Peut-être qu'il il a tous les mots, mais bon, à mon avis, il en a moins que ce qu'on lui dit, mais bon. Ça, c'était un autre débat, mais l'importance qu'il avait.
J'ai toujours considéré que les attaques du gouvernement français contre Carlos Ghosn sur les problèmes de salaire, etc., étaient ridicules.
Enfin, ça existait, il avait quand même...
Attendez, je considérais que par rapport à l'enjeu, mais je l'ai toujours dit, donc je suis très à l'aise, je considérais que par rapport à l'enjeu industriel, par rapport au rôle qu'il avait joué dans l'Alliance, par rapport à la capacité personnelle qu'il avait de piloter l'ensemble, on n'était pas obligé de l'affaiblir en le titillant périodiquement sur cette question des rémunérations.
La fusion, parce que là aussi tout était parti de là, projet de fusion décidé par l'État, entre Renault et Nissan, il faut mieux une alliance qu'une fusion ?
Ah bah, je dirais que pour le moment, ce n'est plus d'actualité. Oui. C'est-à-dire que ce qu'il faut sauver... Non, franchement...
Question que je poserai à Martin Vial la semaine prochaine, voilà, le président,
sauver...
le patron de la PE, pardon.
Voilà, ce qu'il faut sauver, c'est l'alliance. L'alliance est a connu de très graves difficultés. Il y a eu quand même des choses un peu scandaleuses. Nada a été écarté, mais quand même, cet homme-là a instruit de l'intérieur de Nissan le procès contre Carlos Ghosn, qui était normalement le patron du groupe. Et il a passé un accord avec la justice japonaise en mettant dans la boucle le gouvernement japonais pour ce qui représente une rébellion contre l'actionnaire dominant.
Mais il a été évincé, mais il a juste là, quoi. C'était la semaine dernière.
On vient juste de l'évincer.
C'est une histoire qui n'est pas finie, en l'occurrence. Donc, un étranger, peut-être, en tous les cas, surtout un grand spécialiste d'automobile. EDF, là, c'est aussi un autre gros dossier parce que c'est très structurant pour l'économie française et l'industrie française. La tension monte, c'est clair, et le gouvernement a demandé à Jean-Bernard Lévy de plancher sur la mise en chantier de 6 nouveaux EPR, alors que l'EPR de Flamanville a vu sa facture encore augmenter de plus d'1 milliard. Est-ce que ça vous paraît, c'était indispensable, là aussi, pour la survie d'EDF, que même si Flamanville n'ouvre jamais, il y ait d'autres constructions d'EPR, ce qui est contraire, du reste, à ce qu'avait annoncé Emmanuel Macron. Il avait dit qu'il y aurait une concertation, en tous les cas.
Mais je pense que le problème ne se pose pas comme ça. Au point de départ, il y a le fait que la France a fait le choix stratégique d'avoir du nucléaire pour fournir l'énergie électrique en base. Je vous signale au passage que les Anglais ont fait le même choix. Et je vous signale au passage que les Anglais ont été un peu seuls, puisque au même moment, les Allemands, eux, décidaient de sortir complètement. Donc nous avons fait ce choix qui est d'avoir de l'électricité en base d'origine nucléaire. Et d'autre part, le lancement des études pour 3 paires de PR était déjà dans les tuyaux depuis 1 an et demi, et c'était déjà prévu qu'en mi-2021, EDF devait faire des propositions. Ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, entre-temps, le PR de Flamanville a connu 2 nouvelles difficultés. D'ailleurs, normalement, ces propositions auraient dû venir au moment du branchement de Flamanville sur le réseau.
C'est ce qu'avait dit en tous les cas Emmanuel Macron.
Oui,
il avait dit, tant qu'il n'y a pas, prendre de décision,
non, mais attendez,
tant que PR n'a pas démarré.
Il y a 1 an et demi, quand on avait prévu déjà qu'en 2021, on ferait des propositions pour les nouveaux EPR, on avait prévu qu'en même temps, il y avait le nouvel EPR de Flamanville qui serait branché sur le réseau. Il se trouve qu'on a pris du retard. Alors, est-ce que pour autant, on doit se croiser les bras et attendre que l'EPR de Flamanville...
Il y a un président qui décide et il avait dit que, moi je veux dire, vous dites manièrement.
La programmation industrielle dans le nucléaire est une programmation très longue, et si on veut être prêt à ce que le moment venu, les EPR soient prêts au moment où on fermera les 14 centrales qu'il est prévu de fermer, normalement, il y a un compte à rebours, et ce compte à rebours doit démarrer mi-2021. Maintenant, derrière tout ça, il y a 2 questions fondamentales qui se posent. 1, nous allons vers un monde où on aura de plus en plus besoin d'électricité. On a évoqué tout à l'heure l'électromobilité. Avec l'électromobilité, on aura besoin de plus en plus d'électricité. 2, est-ce que cette électricité pourra être fondée sur le charbon, le pétrole ou le gaz comme énergie primaire, ou est-ce qu'on reste dans notre choix nucléaire ? Jusqu'à présent, nous avons décidé de maintenir notre choix nucléaire. Mais faites attention, si cette EPR de Flamanville se révèle être un immense échec, et si on estime qu'on n'est pas capable de lancer...
Un coup, surtout.
Mais un immense échec, parce qu'on n'aura pas réussi à le mettre en marche.
Il y a une possibilité.
On est déjà à près de 10 ans de retard, avec un triplement ou un quadruplement du prix. Je sais bien que les prototypes, c'est toujours difficile à mettre en place, mais là, ça commence à faire beaucoup. Mais il faut faire très attention. Si d'une manière ou d'une autre, on estime qu'on a perdu la main dans le domaine du nucléaire, l'alternative, c'est pas les renouvelables, contrairement à ce qu'on dit. L'alternative, ça sera le charbon et le pétrole.
Mais c'est ce qui se passe en Allemagne, en
France.
C'est ça qu'oublie un petit peu les écologistes.
On avait fait un choix relativement vertueux, de mon point de vue, qui était de dire on va aller vers un monde 50% nucléaire, 50% renouvelable. Compte tenu de la charge, des pointes, de la fourniture en base, etc., c'était un bon équilibre. Mais on ne sait pas produire un 100% renouvelable.
Donc vous dites c'est normal qu'on lance
Sauf à dire qu'on va renoncer au nucléaire.
Oui, alors, y a, parce que renoncer, pourquoi, si je veux dire, il peut avoir des bonnes raisons, en tous les cas, aux yeux de certains. Mais on a simplement, parce qu'en plus, dans cette lettre, le gouvernement demande à Jean-Bernard Lévy de lui fournir, d'ici la mi-novembre, un état des lieux de la filière nucléaire française, incluant les problèmes de retour d'expérience par rapport à la construction de ces EPR. Est-ce que... On en parle depuis longtemps, là aussi. Est-ce qu'il y a un manque de début d'un manque de compétences de la filière nucléaire française ?
Oh, écoutez, c'est un secret de polichinelle. Il y a pire que ça.
Oui, non, mais voyez, oui.
Il y a pire que ça. C'est-à-dire que, un, non seulement on a perdu la maîtrise parce qu'il y a eu un long hiver nucléaire où on a arrêté de produire, oui, on a arrêté de construire, on a perdu des compétences, puis on a relancé. Et on s'est mis à recruter des jeunes, qu'on s'est mis à former, etc. Mais en plus, avec l'EPR, on a choisi ce qu'il y avait de plus difficile, oui, comme objet industriel, c'est-à-dire un objet franco-allemand dans des technologies,
fait par des ingénieurs français avec un
dans des
de
technologies critiques, avec un luxe de sécurité redondante, avec une autorité de régulation. Je ne m'en plains pas, c'est une très bonne chose qui est très vétilleuse dans la surveillance des moindres détails, qui remet en cause le calendrier pour des problèmes de soudure dont on a entendu parler. Donc, vous avez à la fois la difficulté objective, la perte de compétences, la surveillance très précise de l'agence de régulation et la découverte, je dois dire, même moi, j'ai été surpris de découvrir ça, des malfaçons de l'équipementier, c'est-à-dire de Framatome, des mensonges, des dissimulations, des trafics de données.
C'est par rapport aux cuves.
Oui, c'est par rapport au cœur de réacteurs qu'ils fournissaient. Et donc, moi, je croyais que l'éthique dans le domaine de la production nucléaire était vraiment quelque chose de particulièrement élevé. Découvrir qu'on avait menti, triché sur des analyses pour passer des contrôles, etc., la filière nucléaire était vraiment en péril et il fallait une vraie reprise en main de Framatome. Alors, elle est en train de se faire actuellement, mais on a vécu longtemps sur des idées fausses, à mon avis, sur ce qu'était la compétence d'Areva.
Là aussi, il y a une espèce de déliquescence de la filière nucléaire.
Oui. Non, mais c'est terrifiant. C'est terrifiant.
Il y a un enjeu industriel colossal.
Oui.
Mais aussi un enjeu salarial. Enfin, je veux
absolument.
Dire, il y a des milliers de gens qui ont leur job un peu en suspension. Hein.
Ben, c'est toute la filière nucléaire. Mais en même temps, ce qui fait qu'on peut ne pas être totalement négatif, c'est que malgré tout, c'est sur la base d'un design franco-allemand, c'est sur la base d'une supervision française, c'est sur la base d'une alliance franco-chinoise que Taishan a été construit et a été branché sur le réseau, et les Chinois apparemment savent opérer des centrales nucléaires que nous avons conçues. Donc il peut y avoir un retour d'expérience aussi de Taishan. Alors on espérait qu'il y ait un retour d'expérience des Finlandais.
Mais c'est pas les mêmes équipes. C'est pas les mêmes équipes.
Oui, mais enfin, quand même, le patron du nucléaire d'EDF jusqu'à il n'y a pas longtemps avait été celui qui avait présidé la filiale franco-chinoise pendant très longtemps.
Alors, l'autre question par rapport à EDF, quelle question je posais à Phil Martinez de la CGT, on sait qu'il est très pour EDF, la défense du nucléaire, et pour eux, par exemple, il y a une grève demain, je crois, en l'occurrence, ils disent il est hors de question qu'on scinde en deux EDF, parce que c'est une décision importante, ce fameux projet Hercule, c'est d'avoir même en trois, mais c'est d'avoir le nucléaire, où l'État serait complètement majoritaire, la filière, tout ce qui est renouvelable au sens large du terme, et voire l'hydraulique. Et qu'est-ce que vous en pensez, vous, Eli Cohen, parce que vous avez un regard quand même extérieur.
Écoutez, la question est très simple. C'est qui va financer le renouveau du nucléaire en France ? Et qui va financer le décommissionnement des centrales qui vont être arrêtées ?
L'État, donc nous.
Bon, ben si c'est l'État, il y a une certaine logique à ce que l'État prenne le contrôle total de la filière nucléaire. Petit 1. Petit 2. Est-ce que l'État français continue à estimer que la rente nucléaire doit être mise à la disposition des concurrents d'EDF pour qu'ils viennent concurrencer EDF en fournissant du nucléaire à 42 euros le mégawatt, alors que les Anglais ont signé sur 110 euros, si vous voulez. Bon, il y a un moment où il faut être un peu cohérent. Si le gouvernement estime qu'il y a un avenir nucléaire, s'il estime que la rente du nucléaire doit être partagée entre les différents opérateurs pour qu'on ait une concurrence dans le domaine de l'électricité, eh ben il est logique que l'État finisse par prendre le contrôle à 100% de cette partie. Il faut assumer.
Élie Cohen, toute dernière question. On a vu là aussi quand même avec l'impact que ça a, la fermeture annoncée de l'usine de Michelin à La Roche-sur-Yon. Est-ce que ça veut dire qu'il est très difficile d'avoir des usines encore en France?
Écoutez, ce qui est ressorti de cette réunion sur le pacte productif, c'est notamment sur les éléments de diagnostic, c'est que nous avons accumulé les charges qui pesaient et qui alourdissaient la démarche de nos industriels, notamment les impôts de production. Les chiffres ont été donnés sur les multiples de...
Bien sûr, 70 milliards contre...
Voilà, contre... si vous voulez, à un moment, il y a un rappel des réalités. Si vous voulez, quand vous chargez la barque, vous finissez par pratiquer, en fait, le vote avec les pieds, c'est-à-dire que les industriels français, même nos grands industriels, finissent par aller s'installer ailleurs et produire ailleurs. Mmh. Donc, de deux choses l'une, ou, comme le veut Bruno Le Maire, il y a un impératif productif national, c'est-à-dire on estime qu'il est encore important de faire de l'industrie sur le territoire national, et on prend les mesures nécessaires, et on se débarrasse de tous ces poids superflus, notamment sur les impôts de production, où on estime que non, on peut continuer comme ça, et la désindustrialisation continuera, parce qu'il n'y a pas de raison qu'elle s'arrête.
Oui, merci, CQFD. Merci beaucoup, Élie Cohen, de tous ces décryptages. Élie Cohen, donc, économiste, directeur de recherche au CNRS, était notre invité. Voilà, c'est la fin de l'orage. Rendez-vous demain à 8h15, et dans l'orage, 12h, 13h. Bonne journée.